Salut à toutes et à tous, au sommaire de cet épisode, nous aurons Goblins, Battletoads, Power Spikes 2, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, Stunt Race FX, Shadow of the Beast, et nous finirons avec un dossier sur la pipine. Bienvenue sur Rétrovision. Après des années de haut et de bas, en 1991, Cocktail Vision s'est enfin réveillé et s'est mis à nous sortir de très bons jeux d'aventure au fil des ans. Fascination, Bargon Attack, Urban Runner, cette année ils lancèrent un nouveau concept, une bande de gobelins évoluant dans un monde loufoque et devant faire des trucs zarbi, j'ai nommé Goblins. Alors que le roi Angoulastre remplit sa fonction en s'empiffrant comme un gros lard, il est soudain pris d'hystérie et se tord de douleur. Mais que se passe-t-il ? Cette question, les trois gobelins, Oups, Ignatius et Asgard, vont devoir la poser au sorcier Niak pour tâcher de délivrer leur bon roi de sa folie. Sorti de nulle part et sans crier gare, Goblins, avec 3 i pour 3 personnages, est un jeu d'aventure très original. Déjà parce que l'action prend place dans un monde totalement fictif et innovant avec son régime monarchique, ses drôles de bestioles et peuplé donc de sortes de petits lutins, les gobelins. Mais également parce qu'à la manière d'un The Lost Viking ou Fury of the Fury, il intègre le concept de complémentarité, puisque chacun de vos gobelins sera spécialisé dans un domaine. Ignatius est un sorcier et pourra changer des objets en autre chose. Oups peut discuter avec les gens et porter un objet. Enfin, Asgard, lui, est le gros dur. Il peut taper sur n'importe quoi. Chaque niveau est construit de manière à ce que chaque personnage soit nécessaire pour la résolution de l'énigme. Le sorcier va transformer par exemple une pomme normale en pomme aux OGM qui fera 10 fois sa taille. Le bourrin, lui, va frapper pour qu'elle tombe de l'arbre. Et le dernier va la porter et la jeter dans le trou sur un pont pour pouvoir passer, et ainsi de suite. Il y a donc 22 niveaux ou tableaux puisqu'ils tiennent sur l'intégralité de l'écran, pas de scrolling, chaque tableau a son énigme loufoque à résoudre, vous l'aurez compris, de façon loufoque. Le scénario n'est pas statique et parti pour une mission bien précise, les choses ne vont pas se passer comme il était prévu. En bas de l'écran, une jauge d'énergie est disponible, une pour toute votre équipe qui va diminuer en fonction de vos mauvais choix, comme rencontrer un zombie ou une araignée par exemple. Car à chaque fois que vos gobelins ont peur, ils poussent un hurlement et leur barre d'énergie diminue. Goblins est un de ces jeux très riches où le joueur devra faire la démarche d'aller vers lui, comprendre comment fonctionne cet univers pour y progresser. La complémentarité est une recette infaillible, pour peu qu'aucun personnage ne soit relégué au second plan, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Le concept est original, tout comme les tableaux qui ont chacun une énigme différente, leur faible nombre permet de ne pas tomber dans la routine et encourager à persévérer. Son ambiance et son design résolument cartoon contribuent à nous rendre ces petits lutins bien sympathiques. Un jeu fun, innovant et français, trois bonnes raisons de se laisser tenter. Le jeu vidéo, c'est un peu comme le cinéma. On peut être célèbre un jour et disparaître le lendemain. Ainsi, des séries qui ont eu leur heure de gloire dans les années 1990 ont plus ou moins été oubliées de nos jours. Battletoads fait partie de celles-là. Dans ce beat'em up, le professeur T-Birds et les Battletoads doivent escorter la princesse Angelica jusqu'à sa planète. Mais alors que Pimple et la princesse font une balade en voiture spatiale, ils se font capturer par la reine noire. Le professeur envoie donc les deux Battletoads restants, Rush et Zitz, sur la planète Ragnarok pour les délivrer. À première vue, Battletoads a tout du jeu d'action classique. On avance en castagnant du méchant à coups de patate dans la tronche ou de pompe dans le derrière, voire avec un bon gros coup de boule de temps en temps. Mais cela serait réducteur. En effet, les programmeurs de Rare ont eu la bonne idée de donner à leur jeu une progression non linéaire. Ainsi, chaque niveau proposera un challenge différent. Descente en rappel, course sur engin motorisé, traversée de niveau sur ennemis en mouvement, etc. Vous devrez souvent faire appel à vos réflexes et anticiper les dangers dans les 13 niveaux de ce soft à la difficulté légendaire. Heureusement, l'union fait la force et vous pourrez jouer à deux pour combattre la reine noire. Le premier joueur incarnant Rush et l'autre Zitz. Avec ce jeu, la NES nous prouve qu'elle en a dans les circuits. Certains ennemis bougent avec une étonnante fluidité, même si nous pouvons éviter les sempiternels clignotements de sprites, marque de fabrication de la machine. Le titre est graphiquement assez correct, malgré des sprites assez petits et des couleurs parfois criardes. La maniabilité quant à elle est excellente, tout autant que la remarquable bande-son signée David Wise. Le titre se verra porté plus tard sur Game Gear, Mega Drive, Amiga, Amiga CD32 ainsi que sur Game Boy. Attention toutefois, car dans ce dernier cas, le portage se nomme Battletoads in Ragnarok's World. La précédente aventure de notre trio de batraciens culturistes sur cette machine, et nommée simplement Battletoads, est un jeu totalement différent. A noter également le petit clin d'œil des programmeurs de Rare à l'incontournable Space Invaders et les petits vaisseaux qu'il faudra dégommer pour récupérer des points de vie. On ne peut pas dire que les jeux de sport soient le style de prédilection de la Neo Geo. Alors quand il y en a un, il est bon ton de s'y intéresser, surtout quand il s'agit d'un sport pas vraiment populaire comme le volleyball. Bien qu'estampillé 2, Power Spikes pourrait être considéré comme la troisième itération de la franchise de jeux de volley de vidéosystème. Le jeu Super Volleyball, sorti en 1989, posait déjà toutes les bases qui seront ensuite reprises par Power Spikes. Le jeu se présente en vue de côté, ce qui épargne aux joueurs la gestion de l'espace du terrain. Vous disposez de tous les coups de ce sport, trois types de services, réception, smash, blocage, etc. La plupart du temps, vous dirigez le joueur en fond de terrain pour la réception du ballon, mais passerez assez vite à un attaquant pour tenter de smasher. Que ce soit en réception ou en attaque, une flèche vous indiquera l'endroit où le ballon atterrira. À vous donc de placer votre défenseur pour une bonne réception ou de diriger votre tir pour tenter de marquer le point. La jouabilité a été simplifiée et toutes ces actions se font avec un seul bouton. La prise en main est donc très rapide. Cette suite de Power Spikes vous permettra de choisir parmi les 8 équipes de différents pays dans la ligue masculine ou féminine. Malheureusement, un match ne se déroule pas dans sa totalité. Celui-ci commencera avec une égalité des deux équipes à 12 points. La première équipe arrivant à 15 points remportera le match. Les parties sont donc assez rapides. Il est dommage que le soft n'offre pas la possibilité de configurer soi-même le nombre de points au début d'un match, mais c'est un défaut inhérent à tous les opus de cette série. Toutefois, cette version propose de jouer également dans une ligue futuriste où les équipes sont constituées de joueurs bioniques. Dans ce mode, les points sont remplacés par des barres d'énergie et la première équipe dont l'énergie tombe à zéro perd logiquement le match. Ce mode inclut également des coups spéciaux assez roublards qui donneront du fil à retordre à vos adversaires. Cette ligue futuriste est donc la partie la plus intéressante du jeu. Power Spikes 2 est un jeu simple d'accès et sympathique. Il est dommage que sa réalisation soit très loin de ce que la Neo Geo peut donner. Le titre est même à peine plus soigné que son prédécesseur, pourtant sorti 3 ans avant. On sent que seule la partie futuriste a concentré toute l'attention des développeurs. Si vous êtes toutefois amateur de sport et un peu curieux, n'hésitez pas à tester Power Spikes 2 qui s'avère être un jeu très plaisant, seul ou à deux. dans les années 90, qui a maintenant la trentaine, n'a jamais regardé un épisode de Dragon Ball Z. Ce dessin animé fit un véritable carton au Japon et dans beaucoup d'autres pays tels que la France. Enfin bref, nous sommes en 1996, le début de la PlayStation en France, et Bandai nous sort un jeu Dragon Ball Z sur la console qui tue. Après avoir usé nos cartouches Super Nintendo avec les trois premiers jeux de combat, mais aussi l'Appel du Destin sur Mega Drive, nous allons enfiler nos gants de boxe et se remettre des tatanes et des vagues déferlantes à travers la tronche. Le jeu commence par une formidable intro animée représentant tous les personnages du jeu. Il est bon de noter que le titre Ultimate Battle 22 est tiré du fait que l'on puisse jouer avec 22 personnages. Cependant, en finissant le jeu, vous pourrez en débloquer 5 autres. Si vous trouvez le jeu trop long, un code vous permettra d'avoir dès le début les 27 combattants jouables et donnera lieu à une scène supplémentaire lors de l'intro. Une fois dans le menu principal, plusieurs options sont disponibles. Le mode 1 joueur contre l'ordinateur, le mode 2 joueurs, le championnat pour faire des tournois comme dans les autres versions de Dragon Ball Z, un mode croissance dans lequel vous pourrez faire évoluer vos personnages et enfin, combat croissance avec lequel vous pourrez mettre en application l'évolution de vos persos durant les combats. Et bien entendu, les options dans lesquelles vous pourrez changer le type de son, la difficulté, etc. Alors nous voilà enfin au choix des personnages. Et là, quel dilemme, il y en a tellement. Une fois ceci fait, le combat va commencer et là, grosse déception, les personnages tranchent radicalement avec les décors et ça ne colle pas. Les musiques sont très bonnes, support CD oblige, les bruitages sont ceux de la version Jap, donc ça aussi c'est du tout bon. Mais les graphismes ne vont pas. Quant à l'animation, n'en parlons même pas, le jeu est d'une lenteur, et le fait que l'écran ne se divise plus, et que nous avons à la place des effets de zoom particulièrement mal foutus. Enfin bref, on peut dire que les combats étaient beaucoup plus palpitants dans les versions 16 bits. Même s'il y a un très grand nombre de personnages, cela n'empêche pas le jeu d'être inintéressant. Pire encore, il risque de vous dégoûter de Dragon Ball Z. Le jeu manque de rapidité et un mode histoire aurait été le bienvenu avec des phrases entrecoupées de la série animée. Une autre version du jeu, mais complètement différente, est sortie sur Saturn, uniquement au Japon, mais ceci est une autre histoire. Nintendo n'est pas connu ces derniers temps pour ses avancées technologiques. Pourtant, il fut un temps où justement c'était tout l'inverse. Le processeur FX en est justement la preuve parfaite. Nous ne parlerons pas ici de Starwing, non, mais peut-être un autre jour, qui sait. Nous allons plutôt nous pencher sur un autre jeu moins connu de la même équipe, en l'occurrence Argonaut Software, qui sévissait déjà dans le monde de la 3D sur micro avec Star Glider par exemple. Nous voici donc avec Stunt Race FX, dans des courses tout à fait toonesques en 3D, et tout ça en 1994, rendez-vous compte. Le jeu commence par le choix du mode qui sont au nombre de 4. Le Speed Tracks, ou course de vitesse si vous préférez, Stunt Tracks où le but est d'y faire des cascades, Battle Tracks qui est le mode 2 joueurs, et enfin Test Run qui n'est rien d'autre qu'un parcours libre sur lequel on peut essayer des commandes et apprendre à jouer en quelque sorte. Intéressons-nous au mode Speed Tracks. Vous aurez le choix entre 3 véhicules pour commencer, car oui, pour avoir le droit de conduire le quatrième, qui n'est autre qu'une moto, il vous faudra terminer le mode difficile. Alors votre choix devra se porter sur des véhicules à 4 roues, un 4x4, un coupé et une sorte de Formule 1. Chacun d'entre eux a des caractéristiques différentes. Ainsi, le 4x4 est plus robuste, mais roule moins vite. La Formule 1 en contrepartie roule très vite, mais est très fragile. Quant au coupé, il est juste le compromis entre tous. Ensuite, vous aurez le choix entre les courses novice et expert. Donc si c'est la première fois que vous y jouez, nous vous conseillons de choisir le mode novice. Dans les trois types de courses, que ça soit en mode novice, expert ou difficile, celles-ci se succèdent comme suit. Deux courses, puis un parcours bonus, et enfin les deux dernières courses. Les parcours bonus sont des circuits où vous aurez le contrôle d'un semi-remorque avec lequel vous devrez franchir certaines portes pour gagner des précieuses secondes. Et si vous terminez ce parcours, vous aurez le droit en prime à une vie supplémentaire, ce qui ne sera pas de trop, je vous assure. Les courses sont très dépaysantes, les graphismes sont particulièrement fluides et rapides, malgré quelques ralentissements ici et là, mais rien de bien méchant. Il faut avouer que les programmeurs ont quand même énormément réduit la fenêtre de jeu. En mode de joueur, c'est plus lent, certes, mais cela reste extrêmement jouable. Pour conclure, nous pouvons affirmer sans trop de difficulté que c'est l'un des plus beaux jeux de course sur cette machine. Certes, il faudra aimer le style cartoon qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Cela reste un excellent jeu, même si la maniabilité laisse parfois à désirer. Que voulez-vous ? Rien n'est parfait. En 1989, les magazines commencent à aborder des pages entières d'un futur jeu au graphisme somptueux, fait par une jeune équipe, Réflexion, composée de deux personnes et édité par Psygnosis. On parle alors d'un jeu hors du commun, censé en mettre plein la vue et qui utiliserait enfin les capacités de l'Amiga Shadow of the Beast. Kidnappé alors que vous n'étiez qu'enfant par des mages, vous êtes séquestré dans un temple nommé Nécropolis. Pendant des années, d'étranges potions et autres décoctions vous sont administrées. L'enfant n'est plus, mais l'homme est devenu bête avec une extraordinaire puissance physique. Esclave des mages, un jour, vous découvrez la vérité, votre passé, l'enlèvement, la mutation. Fou de rage, vous décidez de vous venger en traversant des régions hostiles peuplées de monstres afin d'affronter le maître des ténèbres. Clairement, le jeu a été créé pour impressionner et exploiter au mieux les capacités techniques de l'Amiga. Et ce n'est pas Commodore qui s'en est plaint, car le jeu fit grimper les ventes de la machine et fut même proposé en pack bundle. Dès les premières minutes, c'est la claque. Le jeu a été créé par des passionnés, des amoureux de cette machine, ce qui fait souvent que les conversions ont été aussi décevantes. Le niveau technique est très haut, l'impression de vitesse par les multiples scrolling est parfaitement rendue et sans aucun ralentissement. Le blitter, le copper et les scrolling câblés de l'Amiga sont poussés dans leur dernier retranchement, ou du moins, va là où peu de développeurs osaient aller habituellement. Les graphismes sont absolument splendides, et même si par la suite Psygnosis fera mieux, par exemple sur Agony, on est toujours subjugué par la poésie des lieux aussi variés, colorés, parfois sombres et tourmentés. La plaine, avec en arrière-plan ses montagnes, un dirigeable traverse ce ciel arborant une demi-lune avec quatre scrollings de nuages. Une forêt aux arbres immenses qui cachent des souterrains, le château et ses décors moyenâgeux, la plaine rouge où les couleurs rouge-bleu pâle d'un coucher de soleil viennent assombrir le paysage et lui donner une inquiétante profondeur. Toujours avec des monstres surprenants faisant parfois jusqu'à la moitié de l'écran, des mains géantes qui sortent du sol, des yeux dans le ciel, des abeilles tueuses et des pics acérés. Tout cela confère au jeu une dimension réellement unique qui fait qu'on se souvient de pistes. La partition musicale est l'une des plus marquantes et envoûtantes de l'Amiga, signée par le maître british David Whittaker. 6 morceaux pesant pas moins de 900 kilooctets, sachant que le jeu ne tient que sur 2 disquettes, sur 4 voix, sous son propre format propriétaire, le DW, réalisé sur un synthétiseur Korg M1 en 20 kHz. Certains ont peut-être considéré le jeu à tort ou à raison comme une simple démo technologique visant à démontrer les capacités de l'Amiga et une formidable entreprise marketing pour Commodore. Ce n'est pas faux, mais c'est mettre de côté la poésie qui se dégage de ce jeu à l'univers vraiment atypique mêlant contes fantastiques et heroic fantasy. Et si les détracteurs du jeu ou certaines mauvaises langues parlent encore sur son peu d'intérêt, que cela ne leur déplaise, l'histoire a parlé pour eux, le jeu s'est vendu à 50 000 exemplaires rien que sur Amiga, et Shadow of the Beast restera comme LE jeu sur cette machine. Réalisé par une autre équipe expérimentée et talentueuse ayant beaucoup travaillé pour Psygnosis, DMA Design, à qui l'on doit aussi Lemmings, Walker et GTA, nous signe la version PC Engine CD-ROM. Les musiques CD sont vraiment superbes et ont bénéficié d'un petit remix tout à fait appréciable. Le jeu se targue aussi de petites transitions animées. Ainsi, on peut y voir au début le mage pénétrant dans la maison et la transformation en bête. Petit bémol par contre, car d'après l'histoire originale, normalement, les mages ont enlevé un enfant qui s'est transformé petit à petit en bête. Ici, on voit un adulte se transformant dès l'enlèvement. Les sprites sont plus gros, certes, mais les décors ont des couleurs trop vives, se rapprochant de celles sur Mega Drive. On a l'impression de jouer à un remake de Wonder Boy, ce qui casse sec l'ambiance noire du jeu. Les arbres de la plaine sont tellement dispersés que la forêt n'en est plus une. On a presque l'impression que les développeurs ne pouvaient pas se permettre d'en afficher plus à l'écran, sinon ça risquait d'exploser. Autre bémol quand on rentre dans les souterrains, les décors de fond ont disparu. Bon, alors cette version est à voir pour les transitions animées et les superbes musiques au format CD. De nos jours, les consoles sont devenues de véritables solutions multimédia leur permettant de sortir du cadre du simple jeu vidéo. Écouter de la musique, regarder des films, envoyer, recevoir des courriels, naviguer sur Internet, etc. L'idée d'imposer la console de jeu au centre de la vie des gens n'est pas nouvelle, mais c'est dans les années 90, avec l'entrée des fabricants d'ordinateurs dans ce secteur, que les choses vont vraiment bouger. Simplifier l'ordinateur pour le rendre aussi simple à utiliser qu'une console est le pari que se sont lancés certains constructeurs. Nous l'avons déjà vu avec Fujitsu et sa Marty, déclinaison console de son standard FM Towns. Ce fut également le cas d'Apple avec son projet Pippin. Basé sur la technologie PowerPC, la Pippin est donc avant tout un Macintosh simplifié à l'extrême, embarquant une version allégée du Mac OS 7. Plutôt que de s'occuper elle-même de sa commercialisation, la firme de Cupertino préférera en faire un standard dont elle vendra la licence à d'autres constructeurs pour la fabrication et la commercialisation à l'instar de la technologie 3DO. Bandai, souhaitant se lancer dans le secteur du jeu vidéo et dont le premier essai avec la Pledia s'est avéré peu concluant, signe un accord avec Apple. Vendue par la branche Bandai Digital Entertainment, la machine débarque sur les rayonnages japonais en mars 1996 dans sa robe blanche sous le nom Atmark. Et en septembre de la même année aux États-Unis, drapée dans l'anthracite et dénommée Atworld. Véritable PC à prix réduit, permettant une navigation simple sur Internet, la console est mise en vente au prix de $599. Ce sera un four monumental. D'une part, la machine est vue comme une simple console de jeu par les consommateurs. À $600, le tarif est bien plus élevé que les machines de Sega, Nintendo et même Sony. D'autre part, dans sa configuration PC, la machine est bien trop limitée pour un usage basique. La mémoire RAM est insuffisante pour une navigation confortable sur Internet. De nombreuses extensions sont disponibles, lecteur de disquettes, combo clavier tablette graphique, manette sans fil, modem, extension mémoire, etc. Bref, un PC en kit plombant encore plus une facture déjà bien salée. Dans sa configuration console, Bandai reste le seul véritable éditeur à créer des jeux pour cette plateforme. En résulte donc un catalogue anémique basé sur les franchises maison. Power Rangers, Gundam, Ultraman, etc. Autant dire que très peu d'entre eux arriveront sur le sol américain. Après avoir vendu un peu plus de 42 000 unités de sa machine, Bandai arrêtera sa fabrication en 1997. En Europe, la société Katz Media, basée en France, acquiera les droits d'exploitation de la machine pour la distribuer comme plateforme multimédia aux entreprises. On ignore le nombre d'unités vendues sur ce secteur, mais les chiffres ne doivent pas être énormes, faisant de cette Pippin Katz une pièce de choix pour les collectionneurs.